journal, Pierre Pilet. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la mobilisation des opposants au pass sanitaire et à la vaccination contre le Covid en baisse. Près de 215 000 manifestants hier selon le ministère de l'Intérieur. On ira à Rouen dans quelques instants. Les autres titres, Pierre.
Haïti à nouveau frappé par un séisme meurtrier. Au moins 304 morts, 1800 blessés dans le sud-ouest. Le terrible souvenir de 2010 refait surface. Nous sommes sur place dans ce journal. Un flux incessant de gravats à déblayer, toujours pas d'eau et d'électricité. On vous emmène dans l'ouest de l'Allemagne, un mois après les inondations. Lionel Messi acclamé, Kylian Mbappé sifflé, deux ambiances différentes pour les deux footballeurs stars du Paris Saint-Germain hier soir. Vos invités ce matin, Laetitia.
7h50, le père Hugues de Walmont, porte-parole de la Conférence des évêques de France. On parlera de l'Église et de ses difficultés liées à la crise sanitaire et également retour sur la mort du père Olivier, maire en Vendée. Et puis à 8h20, une fois n'est pas coutume, nous ne recevrons pas parce que nous irons chez notre invitée, chez Annette Messager, artiste d'art contemporain française. Elle a exposé partout dans le monde. Une de ses installations est actuellement au Centre Pompidou-Metz. À bientôt 78 ans, vous l'entendrez. Elle a un regard assez aiguisé sur l'actualité qui l'inspire.
France Inter.
Toujours présent, moins nombreux, mobilisation en baisse des opposants au pass sanitaire et à la vaccination contre le Covid. Hier, près de 215 000 personnes sur l'ensemble du territoire, d'après le ministère de l'Intérieur. 22 000 manifestants de moins par rapport à samedi dernier. Mais celles et ceux qui battent le pavé comptent bien maintenir le mouvement. Illustration à Rouen, en Seine-Maritime, reportage France Inter, Delphine Evenou.
Infirmière depuis plus de 30 ans, licenciée au 15 septembre. Sur son dos, une soignante affiche son rejet de l'obligation vaccinale pour certains métiers. Ils sont nombreux, comme elle. Christophe travaille à l'hôpital, aucune dose.
J'attends, j'espère un rapport de force, qu'on soit un nombre très important à ne pas être vacciné au 15 septembre. Et j'aimerais savoir comment est-ce que les hôpitaux vont pouvoir gérer ça.
De nombreuses familles battent également le pavé. Rachel, maman d'une adolescente.
Ce qui nous fait peur, c'est le non-retour des contre-indications par rapport au vaccin. C'est que c'est en phase 3, on préfère attendre et c'est notre droit.
Dans le cortège, on échange des chiffres, on cite les réseaux sociaux, défiance envers les médias, les médecins vendus au laboratoire, les politiques jugées incohérentes.
Je considère que ce pass sanitaire, c'est une façon d'instaurer un état totalitaire. Je suis contre la vaccination, chacun fait ce qu'il veut. Je ne vois pas pourquoi on nous force à le faire.
Je ne trouve pas que le Covid soit une maladie assez grave pour obliger 90% de la population à être vaccinée. La grippe, c'est, par exemple, ça peut tuer des jeunes, hein, la grippe normale. Hein.
Au milieu des manifestants, Eric, chaussures cirées, masque sur le nez, sa vaccination est lancée, mais il revient chaque samedi.
Le pass sanitaire, c'est quelque chose de trop coercitif. On a peur de la tentation gouvernementale de proroger à nouveau et à nouveau et à nouveau les choses.
Comme beaucoup, il ne sait pas à quoi aboutira la mobilisation estivale. Mais il veut montrer au gouvernement sa vigilance.
Un reportage Delphine Evenou. Mobilisation à Montréal également hier contre l'équivalent du pass sanitaire au Québec, le passeport vaccinal. Application le 1er septembre. Quelques milliers de manifestants dans les rues selon l'agence France Presse.
Direction à présent Haïti, une nouvelle fois touchée par un tremblement de terre.
Au moins 304 morts, des centaines de blessés et de disparus selon la protection civile. Bilan provisoire. Secousse dans le sud-ouest de l'île de manière 7,2 sur l'échelle de Richter, 160 km au sud-ouest de la capitale. Depuis Port-au-Prince, le récit d'Amélie Baron pour France Inter.
Le cauchemar du séisme de 2010 a refait surface en Haïti. Il était 8h30 du matin samedi quand tout le pays a ressenti la secousse d'une intensité grandissante et très longue dans la durée. Si aucun dégât n'a cette fois été enregistré dans la capitale Port-au-Prince, c'est dans la moitié sud de l'île que la situation a viré au drame. Églises, commerces, maisons, quantité de bâtiments se sont effondrés, piégeant en un instant des centaines de personnes sous des dalles de béton. Grâce à l'intervention immédiate de riverains, des victimes ont été tirées des décombres et cette course contre la montre pour sauver un maximum de vies se poursuit encore. Les habitants et les autorités n'ont souvent malheureusement que très peu de moyens matériels. Des moyens, il en manque aussi déjà cruellement dans les petits hôpitaux des zones affectées. Quand les bâtiments n'ont pas été directement endommagés par le séisme, les établissements sont saturés de blessés et n'ont pas suffisamment de moyens logistiques et humains pour prodiguer les soins nécessaires. Amélie Baron à Port-au-Prince pour France Inter.
Et cette réplique, un autre tremblement de terre de magnitude 5,9 en Haïti hier, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen. Joe Biden, lui, fait part de sa tristesse. Le président des États-Unis charge la directrice de l'Agence américaine d'aide internationale d'offrir une assistance immédiate au pays. L'armée américaine, elle, continue d'évacuer les ressortissants des États-Unis sur le sol afghan face à l'urgence provoquée par l'avancée des talibans. Nouvelle victoire des rebelles, la prise de Jalalabad dans l'est du pays. Kaboul, la capitale, désormais seule grande ville encore contrôlée par le gouvernement.
Un mois après les inondations meurtrières dans l'ouest de l'Allemagne, le déblaiement continue.
Le 15 juillet dernier, au matin, après des pluies torrentielles, le pays constatait les dégâts humains, 183 vies fauchées, matérielles, des centaines de bâtiments détruits, des dizaines de milliers de sinistrés. Dans la vallée de l'Aar, en Rhénanie-Palatinat, 500 bâtiments, 60 ponts emportés par les eaux. Aujourd'hui, des centaines de personnes toujours à pied d'œuvre. Reportage dans la commune d'Arweiler, au sud de Cologne. Hugo Flotta.
Un tractopelle et un camion ben s'affairent dans les rues de ce qui était une jolie vieille ville touristique avec des maisons à colombages, flux incessant de gravats qu'il faut déblayer. Et quand on a fini dans un coin, l'autre est déjà de nouveau plein, raconte Klaus Rausch, un bénévole. Comme lui, des centaines d'hommes et de femmes viennent chaque jour de tout le pays pour aider les 42 000 sinistrés de la ville. Toujours privé d'eau et d'électricité pour une partie. Chez Erika, l'eau est montée à 2 mètres. Après le déblai matériel, on arrache désormais planchers et autres murs en plâtre. Tout a été endommagé par l'eau, ce fut un gros boom, tout a volé, raconte-t-elle. Et la maison des voisins est interdite d'accès, prête à s'écrouler à tout moment. Et à cela s'ajoute le traumatisme toujours là, comme pour Manfred Pels, restaurateur qui confie mal dormir. Le soir des inondations, j'étais de l'autre côté de la rivière avec d'autres hommes. On a vu dans l'eau passer une voiture avec une femme vivante à l'intérieur sans rien pouvoir faire. C'est très dur, raconte-t-il, gorge nouée. À deux pas, comme beaucoup, un hôtelier s'excuse, tremblant de ne pas pouvoir parler au micro. Derrière lui, le plafond de sa salle à manger vient de s'effondrer. Tous savent ici que la reconstruction prendra des années. Arweiler, Hugo Flotatalon, France Inter.
15 milliards d'euros, premières estimations des dégâts matériels en Rhénanie-Palatinat, donc dans l'ouest de l'Allemagne.
Une star du football ovationnée, une autre conspuée hier soir au Parc des Princes.
Sur une estrade, au milieu de la pelouse, Lionel Messi présentait à son nouveau public, celui du Paris Saint-Germain, avant la rencontre, remportée 4-2 face à Strasbourg. L'attaquant argentin, 34 ans, tout juste arrivé de Barcelone, n'a pas joué. Kylian Mbappé, lui, oui, pas buteur, mais passeur décisif. L'attaquant du PSG, cependant, malmené par ses propres supporters en raison de ses envies de départ, à un an de la fin de son contrat. Reportage de notre envoyé spécial, Alexandre Vaux.
C'est le contraste de la soirée. Kylian Mbappé sifflé à deux reprises lors de la présentation des équipes par une grande partie du public, quand Lionel Messi et les autres recrues sont ovationnés avant le match. Visiblement, les supporters parisiens commencent à s'agacer du mutisme de leur attaquant, courtisé par le Real Madrid et qui n'a toujours pas dit s'il allait ou non prolonger son contrat avec le PSG. Pour son entraîneur Mauricio Pochettino, le crack de Bondy n'a pas marqué, mais il a répondu de la meilleure des manières hier en étant impliqué sur 3 des 4 buts parisiens. Kylian est concentré sur ce qu'il a à faire, il a très bien joué hier, je suis content de lui, il doit continuer dans cette voie. À la fin du match, Kylian Mbappé a d'ailleurs été applaudi par une partie du public après avoir donné une deuxième passe décisive à Pablo Sarabia. En 90 minutes, le génie du champion du monde français de 22 ans a une nouvelle fois fait la différence. Mais pour combien de temps encore? Dans un Parc des Princes plein à craquer hier soir, 47 000 personnes présentes, une première depuis près d'un an et demi.
Suite de la deuxième journée de Ligue 1 ce dimanche avec entre autres Angers-Lyon à 13h et Marseille-Bordeaux à 20h45. Nouvelle journée de chaleur aujourd'hui, en particulier dans la moitié sud. 5 départements toujours en alerte orange canicule Météo France. Et pourquoi pas aller se rafraîchir dans une grotte comme celle de Tourtoirac en Dordogne, une trentaine de kilomètres au nord-est de Périgueux. Thibaut Delmarle nous y emmène.
Près de 35 degrés au thermomètre de la voiture en plein soleil sur le parking de la grotte, alors on s'empresse de descendre. Nous voilà 25 mètres plus bas, des stalactites et des stalagmites par milliers, et le bruit de la rivière, Émilie en vacances dans le Périgord.
On voit ça dans les livres, c'est chouette de venir le voir en vrai, c'est agréable d'être au frais.
Elle voulait que ses enfants découvrent les lieux.
Qu'est-ce qui vous a plu dans la grotte, les enfants ?
Là derrière, il y a une énorme colonne en stalagmites et stalactites, c'était très joli.
Virginie passe la journée au frais dans cette grotte, c'est elle la guide des lieux.
Qu'est-ce qu'ils viennent chercher les vacanciers dans cette grotte ?
La fraîcheur. 13 degrés. Non, mais la grotte est très belle aussi. Il n'y a pas que la fraîcheur, c'est aussi le côté grotte purement géologique. Ça change un petit peu des grottes préhistoriques avec les dessins, etc.
À peine 10% de cette immense grotte est visitable. Elle mesure en tout plus de 3 km, mais la partie accessible au public est largement suffisante pour en prendre plein les yeux et pour se rafraîchir.
La grotte de Tourtoirac, découverte en 1995, Laetitia.
Merci Pierre Pilet. La météo du jour, justement.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Jean-Michel Golinski, on est loin de la grotte dont Pierre Pilet parlait à l'instant. La canicule, elle, se maintient dans le quart sud-est. Hein.
Oui, exactement, avec encore 35 à 38 degrés cet après-midi dans les terres méditerranéennes, des départements qui vont des pointes à 40 degrés possibles. Alors la vigilance orange reste d'actualité naturellement. Dans le quart sud-ouest de l'Aquitaine au midi Pyrénées, sous un ciel couvert ce matin, les températures maximales vont perdre entre 6 et 9 degrés par rapport à hier. Exemple, cet après-midi, il fera 26 à Bordeaux, 28 à Toulouse et 24 à Tarbes contre 32 relevés hier après-midi. Près de la Manche, il fera 20 à 22 degrés avec un vent de sud-ouest assez sensible et un ciel partiellement nuageux. Sur les autres régions, statu quo avec comme hier du soleil, des températures stationnaires. Mais cet après-midi, des averses orageuses vont se développer de l'Auvergne-Rhône-Alpes au Grand Est. Une instabilité qui se manifeste déjà ce matin entre le Morvan et la Franche-Comté.